dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Notre nouvelle émission porte sur la rage de lire, sur la soif de découverte de la lecture.
C'est là une passion vécue par un écrivain disparu en 2020. Il s'agit de Michel Ragon.
Et la genèse de cette passion nous est contée par son ami et écrivain Thierry Maricourt, qui vient de publier son dernier livre intitulé « La rage de lire, le jeune Michel Ragon » et édité aux éditions de L'Échappée.
Aujourd'hui, dans Dissonance, il sera question de l'enfance de Michel Ragon, de son dégoût de l'injustice, de son amour des vaincus et des sans-voix, ainsi que de littérature prolétarienne, d'anarchisme et d'humanisme.
La rage de lire, le jeune Michel Ragon.
Par Thierry Maricourt.
Sur Dissonance.
Et donc Ragon, voilà, il a une œuvre très diverse, mais pas disparate. J'ai fait un dictionnaire des auteurs prolétariens où j'ai élargi encore une fois, parce que à mon avis aujourd'hui, il faut prendre en compte aussi les exclus du monde du travail. Et dans tous ces bouquins, qui met-il en scène? Sa mère. Et puis tout ce milieu paysan, petits artisans, enfin tout un milieu quasiment sous-prolétariat de l'époque.
Bonjour Thierry Maricourt.
Bonjour,
je suis très content de t'avoir dans notre émission. Donc pour les auditeurs, je peux juste dire que tu as été ouvrier, manutentionnaire, déménageur, intérimaire, insoumis au service national, anarchiste, ça tu l'es toujours, détenu pour des raisons d'insoumission au service national et opposé aussi à la venue d'un leader de l'extrême droite dans ta ville, qui est Arras, et que tu es aussi libraire, écrivain, journaliste et éditeur. Tu as à ton actif une quarantaine d'ouvrages. Un de tes premiers est l'excellent Dictionnaire de la littérature libertaire publié en 90 chez Albin Michel. Et le dernier que tu viens de publier, c'est Une rage de lire, avec pour sous-titre Le jeune Michel Ragon. Et c'est publié par L'Échappée et il est sorti il y a 2 mois. Ce livre, Thierry, que l'on pourrait penser être une simple biographie, n'en est pas une. Pas une, en tout cas dans le sens où moi je l'entends. Elle dénote par le style qui n'a rien de classique, par la période de la vie documentée et surtout par la beauté de ton écriture qui se savoure et se déguste tout au long des pages. C'est un essai, un texte, où tes mots fondent en bouche alors qu'ils dépeignent tout en finesse la genèse d'une montée chez le jeune Michel Ragon, montée de l'envie de lire, puis montée de l'envie d'écrire pour témoigner de la vie des plus faibles. C'est un talentueux éclairage de tous les aspects qui ont permis à Michel Ragon de se passionner pour la lecture et de devenir écrivain, critique d'art, d'architecture et historien. Comme lui, tu es pacifiste, tu es révolté par les injustices. Dans ton dernier livre, tu lui fais dire, mais c'est certainement ses propos, tu nous confirmeras, « J'aime bien les fous, les francs-tireurs, les en-dehors, les toqués des grandes causes et des petits bénéfices, les chimériques, les éperdus, les extravagants, les excentriques, les maboules, les têtes de mule, les irréductibles, les cabochards, les insoumis. Oui, j'aime ces obsédés d'un idéal qui les dépasse. Ils courent après, ils courent à perdre haleine, à perdre l'esprit, à perdre vie. » Ce sont les miens, dit Michel Ragon. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir écrire sur Michel Ragon, décédé il y a 2 ans, Thierry Maricourt?
Alors, suite à cette présentation et de ma personne et du bouquin, j'aurais plein de choses à dire. Il y a plein de portes qui s'ouvrent. Qu'est-ce qui m'a poussé? Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire, je vais remonter un petit peu, à écrire une histoire de la littérature libertaire? Je me suis intéressé très tôt à la littérature prolétarienne, et donc je me suis intéressé au fameux bouquin de Michel Ragon, Histoire de la littérature prolétarienne en France, qui était sorti chez Albin Michel il y a bien longtemps. Et dans ce bouquin, il mettait la littérature libertaire mériterait toute une étude. Voilà. Alors là, moi, je me suis dit, bah allez, relevons le défi, essayons d'écrire quelque chose sur les auteurs d'inspiration libertaire. Je voulais faire au départ un petit catalogue, hein, quelque chose d'une centaine de pages, et puis je me suis pris au jeu et j'ai essayé de faire quelque chose d'exhaustif en recensant les auteurs qui étaient morts, Jules Vallès, Louise Michel, Octave Mirbeau, et puis ceux qui étaient encore vivants. Et parmi ceux qui étaient encore vivants, bah, il y avait bien sûr Michel Ragon. Donc c'est comme ça que je lui ai écrit tout simplement. J'ai fait une bafouille que j'ai envoyée aux éditions Albin Michel. Et puis en demandant à le rencontrer, et il m'a répondu aussitôt. Et voilà, c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Enfin, c'était dans les années au milieu des années 80. Tout de suite, il m'a dit, bah, Thierry, aucun souci, si tu veux, viens chez moi. Il m'a donné son adresse à Paris. On va discuter, tu me poseras toutes les questions que tu veux. Voilà, j'ai été reçu très très chaleureusement. Et puis, bon, j'ai posé des questions sur son parcours, sur le pourquoi de son écriture, de ses choix, enfin, toutes ces choses-là. Mais au-delà de ça, je crois qu'on a partagé plein de une vision du monde, une façon d'être aussi. On a partagé plein de choses et puis on est devenus amis. Hein.
Et alors, est-ce qu'il y a une différence? J'imagine que oui, mais ça faudrait que tu nous l'expliques peut-être dans une partie où on en parlera plus, mais entre la littérature libertaire et la littérature prolétarienne.
Oui. Ça se recoupe très souvent, mais en même temps c'est très différent la littérature. Enfin, moi ce que j'appelle la littérature libertaire, c'est la littérature écrite par des écrivains qui ont un idéal social libertaire, qui veulent vouloir mettre en place une société sans Dieu ni maître. Voilà, la littérature prolétarienne, c'est une littérature avant tout de témoignage sur les conditions de vie et de travail des auteurs. Alors ça va se recouper souvent, mais puis il y a des auteurs qui appartiennent aux deux catégories, comme Michel Ragon, comme Serge Livrosé parfois, comme Maurice Joyeux, mais il y a des auteurs qui sont d'un côté et pas de l'autre aussi. Octave Mirbeau n'était pas du tout un prolétarien, par exemple.
Le jeune Michel Ragon, né en Vendée, à Fontenay-le-Comte, c'est ça?
Puis, enfin, né à Marseille, mais un petit peu par incident, mais il a passé toute sa prime jeunesse en Vendée, à Fontenay-le-Comte, et il est né en 1924.
D'accord, et ensuite, vers 14-15 ans, il va à Nantes avec sa mère, c'est ça?
Voilà, qui est gardienne d'immeuble.
Voilà, et puis après, la troisième grande partie de ton livre, c'est il arrive à Paris, et où il va donc rencontrer tout un tas de gens. Pourquoi ce parti pris de ne s'intéresser qu'à de la naissance jusqu'à 20-21? C'est intéressé à son envie, sa soif de découverte de la lecture et des écrivains?
Alors, en fait, il y a différentes raisons. Enfin, une raison principale, c'est qu'il y a déjà quelqu'un qui travaille sur une biographie de Michel Ragon, chez Albin Michel. Voilà. Donc, si j'avais voulu écrire ma biographie, ça aurait fait double emploi, on serait marché sur les pieds. C'était peut-être pas utile. Et puis moi, ce qui m'a beaucoup intéressé chez Michel Ragon et puis chez d'autres auteurs, mais alors chez lui, c'est vraiment manifeste, c'est comment un gamin issu d'un milieu modeste, un gamin pour qui il y a très peu de bouquins autour de lui, il y a une petite flamme dans sa tête, hein, c'est ce qu'on voit, une petite étincelle des fois, voilà, et qui il va se dire un jour, je vais faire du livre un outil d'émancipation, et cet outil va donner un sens à ma vie, va donner le sens de ma vie. Voilà, c'est ce que j'ai voulu comprendre. Alors ce phénomène va se produire, ça peut se produire pour un musicien, pour un peintre, pour des métiers, même voire pour un jardinier, enfin pour différentes personnes. Mais tout ce travail, toute cette démarche, comment ça lui est venu, enfin, dès qu'il a eu des livres tout petits, il s'est mis à lire, alors tout et n'importe quoi, et puis il n'en a pas démordu, jamais. Quand il a découvert qu'il existait des bibliothèques avec des livres gratuits, en accès gratuit, il a été complètement fou et là, il s'est mis à hanter les bibliothèques, puis les librairies. Et puis voilà, toute sa vie, ça a été je vais faire en sorte de rencontrer des écrivains, et de préférence des écrivains qui ont une vision proche de la mienne du monde, donc plutôt anarchiste et prolétarien. Et puis après, alors il s'est ouvert à beaucoup d'autres choses, notamment l'art abstrait, l'architecture, mais toujours le livre comme pilier central, quoi, comme ligne directrice.
Pourtant, le livre ne faisait pas partie de sa vie. Sa mère ne lisait pas. Comment tu peux expliquer cet engouement?
Sa mère lisait très peu. Dans son milieu familial, il y avait quelques livres, il y avait quasiment pas de livres, mais il y avait quelques livres, la Bible ou la Malaque Vermeaux ou des choses comme ça, enfin les livres qu'on pouvait trouver un peu partout, parce qu'il fallait avoir quelques livres, c'était juste histoire de montrer, quoi. Il les a lus parce que voilà, il lisait tout ce qu'il trouvait. Et puis il y avait aussi la presse locale, enfin une fois de temps en temps, hein, ça pouvait être une fois un quotidien, une fois par mois, mais il y avait ça qui dévorait de la première à la dernière page. Voilà. Alors qu'est-ce qui explique qu'il s'est pris d'engouement pour la chose écrite? Enfin, c'est même la chose écrite avant le livre, hein, c'est ça le grand mystère que j'ai essayé de percer dans ce livre, Le Jeune Dragon. Voilà, j'ai essayé de le suivre pas à pas, j'ai essayé de voir le monde avec ses yeux, d'essayer de comprendre le monde de son époque, de son milieu avec ses yeux, qui sont pas mes yeux à moi, mais j'ai un parcours qui fait qu'on n'est pas très loin, on est devenu amis, c'est pas un hasard. Je me suis permis de parler à sa place parfois.
Pâle ou vermeille, brune ou blonde, bébé mignon, dans les larmes, ça vient au monde, cher Aguignon. Ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé, comme un vrai champignon, ça pousse, cher à pavé. À 15 ans, ça rentre à l'usine, joli bétail, du matin au soir, ça turbine, cher à travail. Fleur de ruelle, ça s'étiole quand c'est giron, dans un guet-apens, ça se viole, cher à patron. Jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent, alors ça devient belle de nuit, cher à client. Ça tombe encore de chute en chute, et un beau soir, pour deux balles, ça fait la culbute, cher à trottoir. Ça vieillit, et plus bas ça glisse, honteuse, un soir, ça se fait prendre par la police, cher à flicard. Ou bien sans papier, ça travaille dans les bas-fonds, alors ça finit sur la paille, cher à prison. Malade, souffrant le supplice, claquant des dents, ça termine dans un hospice, cher à savon. Bien sûr, ça se regarde à la loupe, joli modèle, quand c'est crevé, ça se découpe, cher à scalpel. Patron, banquier, politicien, c'est bien fini, quand vous tomberez entre nos mains, cher fusil. Pour que chaque chien sur votre ogne pisse à l'arrêt, nous leur laisserons vos charognes, cher à fumier.
La rage de lire, Le Jeune Michel Ragon.
Par Thierry Maricourt.
Sur Dissonance.
Il y a quelque chose qui est un des germes de cette envie de lire, et comme tu disais, de pas lire n'importe quoi, c'est la découverte de l'injustice quand il devient ouvrier tout jeune à Nantes, et puis la découverte aussi de cette solidarité, de ce monde ouvrier, de cette classe ouvrière, qui a fait que peut-être après il est parti vers la littérature qui mettait en avant ce monde-là. Ou qui s'en inspirait, ou qui témoignait sur la dureté de ce monde-là et la solidarité.
Ah bah complètement. Et cette injustice et puis cette solidarité qui peut en découler, il l'a perçu très tôt. Enfin, les siens étaient des petites gens. Il y avait une branche paysanne et une branche artisan à travailler le cuir. Voilà, mais c'était des gens qui étaient les précaires de l'époque. Donc ça, la justice, il l'a vu, et la solidarité, elle se manifestait comme elle peut se manifester au quotidien entre petites gens, quoi, l'entraide, des prêts, des dons, enfin toutes ces choses-là. Et puis quand il s'est mis à lire, quand il a découvert les bibliothèques où il pouvait y avoir accès et emprunter tout ce qu'il voulait, il s'est mis à lire de façon désordonnée, comme un autodidacte. Hein, c'est Sartre qui parlait que les autodidactes lisent par l'alphabet A, B, C, D. Voilà. Et Ragon, ça était quelque part pareil, quoi. Il lisait un peu ce qui lui tombait sous la main, donc un peu tout et n'importe quoi. Mais dès qu'il a commencé à ordonner un peu sa lecture, et ce qui est intéressant, c'est que j'ai remis la main, enfin sa femme Françoise m'a montré des carnets qu'il avait dès qu'il a commencé à lire, donc tout petit, il a noté sur des carnets ses lectures. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a fait en sorte de lire les classiques, vraiment tous les grands classiques qu'on pouvait trouver dans les années 1930. Et puis donc des auteurs de Diderot, Rousseau ou bien antérieurs, et puis les auteurs contemporains, donc Jules Romain, Georges Hamel, Barbus, enfin tous ces gens-là, et les classiques et les auteurs de son époque. Et puis au fur et à mesure de ses avancées, ça s'est affiné et il s'est mis à lire des auteurs qui lui parlaient de sa classe sociale.
Ah, très bien. Et il cherchait aussi à rencontrer ses auteurs. Je crois qu'une des premières rencontres avec un auteur, c'était René Guicadou à Nantes.
Alors ça a été, oui, une des premières rencontres physiques avec un auteur.
Physique,
enfin,
oui.
Enfin, qui a reporté, en fait, parce que le jour où il devait rencontrer Cadou, il y a eu un bombardement et ça a été reporté de quelques semaines. Mais ça s'est bien passé avec Cadou, mais en même temps, c'était deux mondes. Cadou était déjà célébré, était déjà... un grand nom dans le monde de la poésie, et Michel Ragon était un gamin en quête de culture, mais je crois qu'il s'est beaucoup plus retrouvé avec les rencontres qu'il a pu faire, alors pas physiquement, mais par courrier, avec les auteurs qu'il a lus, alors Guillaume, par exemple, écrivain paysan. Ludovic Massé, enseignant et écrivain prolétarien. Henri Poulaille, bien sûr, chef de file de la littérature prolétarienne. Tous ces gens-là, il s'est beaucoup plus retrouvé avec eux parce que la plupart étaient bien plus âgés que lui, forcément. Ils avaient tous au moins une vingtaine d'années de plus que lui. Mais ils venaient d'un monde que lui connaissait. Donc il pouvait y avoir un échange. Puis c'était des gens qui étaient tous très généreux.
Voilà.
Donc quand il y a un gamin qui leur écrivait, forcément ils répondaient, forcément ils envoyaient des bouquins, forcément ils proposaient, si tu passes à Paris et tout ça, viens me voir, on t'aidera. Enfin, il y a eu aussi toute cette dimension qui s'est mise en place.
Et tu évoques aussi les premiers poèmes qu'écrivait le jeune Michel Ragon. Est-ce qu'il les montrait à ses auteurs quand il les a rencontrés physiquement?
Alors il a commencé par écrire des poèmes, comme beaucoup d'auteurs, qui finalement c'est très difficile d'écrire de la poésie, mais en même temps quand on commence à écrire, on pense que c'est facile. Et il a écrit des poèmes, même qui certains textes ont été publiés. Il les a montrés, mais avec beaucoup de réserve. Enfin, Ragon, ça a toujours été quelqu'un de très très public.
Ouais.
Très, je dirais pas timide, mais pas loin quand même. Disons le timide qui se force qui prend constamment sur lui-même pour aller rencontrer les autres, pour montrer ce qu'il fait, pour ouvrir les portes. Donc la poésie, il en écrivait, il a montré ses poèmes autant qu'il a pu, mais Ragon, ça n'avait jamais été moi-je.
Est-ce qu'il avait conscience, parce qu'après, tu vas nous en parler, mais il a écrit des livres qui ont rencontré un grand succès. Lui, il a voulu toujours garder secret, enfin un secret. Il se mettait pas lui-même en avant, mais avec ce qu'il a écrit dans le cadre de la littérature prolétarienne et de la suite de ses œuvres, avant de se passionner pour l'architecture, c'était mettre en avant tout ce monde-là, qui est un monde de taiseux, un monde de...
Un monde de taiseux ou un monde privé de parole, la plupart du temps.
Privé de parole, tout à fait.
Et oui, non, ça a toujours été son but de redonner la parole à ces gens-là, de les mettre en avant, de leur rendre leur dignité. Je termine mon bouquin par une sorte de pirouette, une plaisanterie qu'on n'est pas une, mais quand Michel Aragon a sorti en 1990 La mémoire des vaincus, un grand roman consacré au mouvement anarchiste. Mmh. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais entendu des compagnons, des gens dans le mouvement dire pourquoi ils nous traitent de vaincus, comme si c'était péjoratif. Voilà. Et bon, alors d'une part, je pense qu'on est quand même des vaincus, mais vaincus fiers, des vaincus oui. La tête haute, mais on n'est pas
on n'est pas terrassés, quoi. On est toujours là, quoi.
On est toujours là, voilà, il n'y a pas un sur 100, mais on existe toujours. Mais c'est pas une honte d'être vaincu non plus quand on a combattu et qu'on a fait en sorte de changer les choses. Et puis quand Aragon nomme son bouquin La mémoire des vaincus, et en fait c'est là ma pirouette à la fin de mon bouquin, c'est je serai la mémoire des vaincus, c'est ça qu'il veut dire.
D'accord, ah oui.
Donc en donnant la parole à toutes les petites gens qui formaient le milieu de son enfance et puis qu'il a côtoyé tout au long de sa vie, c'est pas les vaincus et les perdants, même s'ils sont magnifiques et tout ça, non, c'est pas ça, c'est les vaincus, on existe, on a droit à la parole et on n'attend pas d'avoir droit, d'ailleurs on prend la parole. Je serai la mémoire des vaincus. C'est ça, tout le sens de sa vie, c'est ça.
Ils marchent ensemble, sans se séparer. L'union fait la force chez les ouvriers, sur tous les chantiers. Le cœur plein d'espoir, l'espoir de changer cette société. Ils ont crié solidarité de toute leur cité jusqu'à l'Elysée. Stop à la machine, on veut travailler. Personne ne les a vraiment écoutés. Ils ont aimé la révolution, mais ils ont perdu toutes leurs illusions. Le vent a tourné, balayant leurs idées, et ils sont restés seuls les poings serrés. We'll be right back.
se sont envolés, si toutes leurs usines se sont arrêtées, et si la machine les a sacrifiés, un cœur ne peut pas se remplacer, un cœur ne peut pas se remplacer, un cœur ne peut pas se remplacer.
La rage de lire, le jeune Michel Ragon.
Par Thierry Maricourt.
Sur Dissonance.
Il a galéré longtemps. Pour un écrivain, c'est difficile de vivre de sa plume.
Oui, parce qu'il a commencé à écrire assez tard, à publier en tout cas.
Assez tard, non, mais quand il est venu à Paris, enfin, il a commencé à travailler à 13-14 ans. Il est venu à Paris, il avait une grosse vingtaine d'années. Il a fait plein de boulot, il a travaillé dans une fonderie, aujourd'hui on parlerait de Uber. Il a fait des livraisons, il a tenu une librairie pour répondre à un autre militant anarchiste, il a fait toutes sortes de boulot, et puis il a écrit des romans, mais drôle de métier, et puis drôle de voyage, mais qu'on pas marché, enfin, un roman pour qu'on puisse en vivre, il faut quand même en vendre des milliers et des milliers, et c'est quand même très rare. Donc il a pu gagner un peu d'argent avec ses bouquins, c'est à partir des années 80, quoi. Donc il était âgé là.
Il a rencontré le monde de l'édition qui lui a fait vendre beaucoup de livres, etc. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, en 80, 84, non, avec les mouchoirs rouges de Cholet,
les mouchoirs rouges de Cholet, qui a été un grand succès, repris en poche, en club et tout ça. L'accent de ma mère, bien sûr, la Louve de Mervan, tous ces bouquins, mais c'est venu très tard, ça. Et dans tous ces bouquins, qui met-il en scène? Sa mère. Et puis tout ce milieu paysan, petits artisans, enfin tout un milieu quasiment sous prolétariat de l'époque.
Et alors c'est ce que tu appelles, mais pas que toi, c'est ce qui existe et qui est dénommé ainsi, la littérature prolétarienne. Alors ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire une émission là-dessus. Est-ce que tu peux nous en parler de cette littérature prolétarienne? Qu'est-ce que c'est quoi ce courant littéraire qui date d'il y a pas si longtemps, il y a un siècle à peu près?
Oui, c'est ça. En gros, je vais pas m'étendre dessus, mais en gros, à partir de l'année des bourses du travail, donc à la fin du 19e siècle, le prolétariat s'est rendu compte qu'il avait une culture et qu'il pouvait l'exprimer par écrit, hein, et puis avec l'école obligatoire aussi. Et à partir de ce moment-là, des gens qui n'avaient jamais eu accès à la parole et au livre se sont mis à s'exprimer par écrit et à en faire des bouquins. Alors, dans les années 20, il y a eu ce qui s'est appelé le populisme, où des auteurs bourgeois ont mis en scène dans leurs bouquins des petites gens, voilà. Mais bon, d'autres l'avaient déjà fait avant. Hein. C'était Zola, il l'a fait par exemple, voir Hugo, Georges Sand et tout ça. Mais dans les années 1920, ça a été un courant, ça, le courant populiste, qui n'a pas été inintéressant, mais qui était un courant bourgeois. Voilà, donc on voyait le monde du travail avec les yeux de bourgeois. Et il y a eu, à la même époque, le Parti communiste, enfin en 21, quand il s'est structuré, qui a décidé, sur ordre de Moscou, de lancer une littérature d'inspiration soviétique.
Oui, stalinienne.
Stalinienne, oui. Donc on met en scène des ouvriers ou des paysans, mais là en les magnifiant. C'est les nouveaux héros.
Les héros, ouais. L'avant-garde de la classe ouvrière.
Oui, voilà, l'avant-garde de la classe ouvrière. C'est un peu ce qu'on, les peintures qu'on peut voir, les photos et tout ça, des grands hommes blonds avec le soleil derrière eux, et puis la femme qui leur tient le coude, et puis les enfants derrière. Enfin, voilà. Les nazis n'auront pas besoin de se creuser beaucoup la tête pour reprendre la même imagerie. Hein. Ouais. Et puis, le troisième courant, c'est la littérature prolétarienne telle que l'a conçue Henri Poulaille. Alors Poulaille, c'est quelqu'un qui a eu un parcours un petit peu similaire avec Michel Ragon, qui s'est retrouvé orphelin de père à 13 ou 14 ans, et qui a travaillé très tôt, qui a fait toutes sortes de métiers, et qui s'est retrouvé directeur du service de presse d'édition Grasset quand il a eu une trentaine d'années. À ce moment-là, il en a profité pour défendre tous les... Alors, c'était aussi un autodidacte qui adorait les bouquins. Et il en a profité pour défendre les auteurs issus du monde du travail. Et ça a donné ce qu'on a appelé le groupe prolétarien. Voilà. Qui a démarré, et Poulard a publié dans ces années-là un bouquin manifeste qui s'appelle « Nouvel âge littéraire ».
Voilà. Il faudra que tu nous dises, mais ça je le mettrai sur les pages internet, une liste de bouquins à lire et à découvrir pour bien appréhender cette littérature prolétarienne. On dit prolétarienne, mais c'est aussi une littérature paysanne, une littérature de...
Oui, mais c'est prolétariat, c'est le monde ouvrier, le monde paysan, voire aussi le monde enseignant. Poulaille avait donné une notion assez restrictive du terme. Ragon l'a élargi un petit peu, et moi, après, j'ai fait un dictionnaire des auteurs prolétariens où j'ai élargi encore une fois, parce que, à mon avis, aujourd'hui, il faut prendre en compte aussi les exclus du monde du travail. Hein, les chômeurs, et puis tous les Uber, tous ceux qui font des petits boulots sans reconnaissance aucune, et puis beaucoup de gens aujourd'hui que je classe dans la littérature prolétarienne sont d'origine immigrée, il y a aussi aujourd'hui beaucoup plus de femmes qu'auparavant, voilà, ça a évolué tout ça.
Oui, ça évolue toujours. C'est toi qui as rajouté aussi Louise Michel ?
Oui.
D'accord.
Bah, Louise Michel... Moi, je la classe dans cette littérature prolétarienne parce qu'elle était enseignante, au plus bas niveau. Quand je dis enseignante, moi, je parle des maîtres d'école, des maîtresses d'école. Hein. Après, c'est autre chose. Hein. Et puis dans ses bouquins, elle met très souvent en scène des ouvriers, des ouvrières, des petites gens. Hein.
Pas tellement, c'était Noël. Ça fait longtemps qu'on n'y croit plus. C'est pas tellement qu'elles étaient belles, nos machines, mais elles n'y sont plus. C'est pas tellement que c'était Noël. C'est pas tellement qu'elles étaient belles. Au fond des mines, y a de la poésie dans les usines, dans les ateliers, dans les cantines. Y a de la poésie dans les usines, dans le cambouis, dans la calamine. Y a de la poésie dans les usines, dans les outils, dans les machines. Y a de la poésie dans les usines. C'est pas tellement pour le salaire. On peut pas dire que c'était Byzance. C'est pas ça qui nous rend amers. C'est plutôt qu'on avait confiance. C'est pas tellement pour le salaire. C'est pas ça qui nous rend amers. Dans les aciers au fond des mines, y a de la poésie dans les usines, dans les ateliers, dans les cantines. Y a de la poésie dans les... Oui, dans la calamine, y'a de la poésie dans les usines, dans les outils, dans les machines. Y'a de la poésie dans les usines. C'est pas tellement que c'est un salaud, qu'il est parti comme un voleur, sans un regard et sans un mot. Mais on n'attendait pas des fleurs. C'est pas tellement que c'est un salaud, qu'il est parti sans un mot.
La rage de lire, le jeune Michel Ragon.
Par Thierry Maricourt.
Sur Dissonance.
Il y a une autre dimension qu'on n'a pas encore évoquée sur Michel Ragon, c'est qu'il a découvert après le monde de l'anarchie, de l'anarchisme.
Il a découvert, enfin, tout ça a été concomitant. Hein. Quand il a commencé à écrire à des auteurs, donc au milieu des années 30, et ben il a correspondu avec les prolétariens, mais les prolétariens étaient pour beaucoup quand même anarchistes. Quand je pense par exemple à Ludovic Massé, maître d'école, il était complètement anarchiste. Hein. Il a écrit un bouquin, Le Refus, sur la soumission, ou sur le pacifisme plutôt, en temps de guerre, qui est un très beau bouquin. Et c'est un point de vue libertaire. Il a correspondu, Michel Aragon a correspondu avec Henri Poulaille. Poulaille s'est toujours dit anarchiste. Poulaille a appris à lire dans les bouquins que son père cachait dans une malle. C'était Kropotkin, Malato, Louise Michel, tous ces auteurs-là. Voilà, quand Poulaille est arrivé à Paris en 45, il allait voir directement... quand Michel Aragon plutôt est arrivé à Paris en 45, il est allé voir directement Henri Poulaille dans son bureau des éditions Grasset, et là il a rencontré toute une faune anarchiste.
Et oui, tu évoques même dans ton livre la rencontre avec Georges Sédille.
Oui, qui était Brassens. Hein.
Georges Brassens, qui est signé comme ça.
C'était le pseudo de Brassens dans le Libertaire. Mais il a rencontré Armand Robin, il a rencontré Le Coin, il a rencontré Leval, il a rencontré enfin, tous les Maurice Joyeux aussi, et puis sa compagne, enfin tous les militants de l'époque.
Et il a côtoyé la Fédération anarchiste, mais il n'a jamais été encarté.
Il a côtoyé de très très près la Fédération anarchiste. Il a participé à. Bah, moi, je me souviens des. Je suis bien plus jeune que lui, mais je me souviens des manifs pour Radio Libertaire à partir de 81. Il y avait Michel Aragon, et j'étais là aussi. On se côtoyait physiquement là. Voilà. Aragon n'a jamais voulu adhérer à un parti politique. Pour lui, adhérer, c'était perdre son...
Oui, perdre son âme, quoi, faire son autonomie.
Ouais, son âme, son indépendance. Bon, ça se discute, ça. Moi, je pense qu'il n'avait pas tort sur le fond.
Oui.
Mais bon, il n'a jamais pris sa... De toute façon, il n'y a pas de carte à l'AFA, mais...
Oui.
Il n'a jamais même adhéré formellement à l'AFA, mais par contre, il a toujours répondu présent quand c'était nécessaire.
Il était toujours là dans les actions de solidarité, dans les manifs, il était aussi présent dans le monde vivant, il restait pas que dans le monde de la littérature.
Ah, pas du tout, non. Bah, de toute façon, c'était un habitué aussi, quand on fréquentait Publico, on avait des chances de croiser aussi. Hein.
Publico, une librairie parisienne.
Fédération anarchiste à Paris.
Ouais. Et tu disais tout à l'heure, tu l'as glissé un petit peu, que vous aviez un parcours un petit peu similaire entre Michel et le tien, le parcours de Michel et ton parcours aussi. Tu viens du monde ouvrier aussi.
Bah, moi, je fais, tu vois, une analogie, Henri Poulaille, Aragon, il y a eu parcours similaire, mais après, l'époque n'est pas la même, tout ça. Enfin, donc, il y a plein de choses qui changent. Mais alors, moi, je viens après... Et moi, j'ai eu bac, voilà, et je me suis arrêté là. Et tout ce que j'ai appris, en fait, c'est tout ce que j'ai appris après. J'ai été militant très très tôt. En fait, pour moi, c'est le militantisme qui a été mon université.
Ouais.
Voilà, et puis j'ai fait toutes sortes de boulots. J'ai bossé pas mal en intérim.
Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, vers l'écriture alors et la littérature?
Et ben la même chose. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin sur Michel Aragon, parce que je me retrouve aussi en lui. La même chose. Tout petit, je lisais tout. Je me souviens, enfin quand je circulais dans Paris, mes parents étaient banlieusards. On habitait à La Courneuve, une cité, les 4000 de La Courneuve, une cité très populaire. Et puis quand on allait à Paris, on y allait en voiture souvent. Et moi, je lisais toutes les publicités que je voyais. Et je les lisais à haute voix et je demandais à mon père qui tenait le volant si c'était ça.
Ouais.
Si j'avais bien lu. Et je lisais tout. Alors, et puis j'ai demandé à mes parents. Mais c'est pareil, chez moi, il n'y avait pas de bouquin sauf le Reader Digest.
Oui.
Voilà, pour mon père, il fallait avoir quelques volumes comme ça qui étaient beaux, reliés, et c'était important. Mais il ne lisait pas. Enfin, mon père, mes parents n'ont quasiment jamais su lire ni écrire. Voilà, mais par contre, il y avait ça, et moi j'ai appris à lire dans les volumes du Reader Digest, où j'ai découvert Jack London et puis plein d'autres auteurs. Et puis, ma mère a acheté Confidence, Ici Paris, des choses comme ça. Et j'ai appris à lire dedans, dans cette presse.
Et tu avais du recul par rapport au contenu? Est-ce que c'est la découverte de l'injustice qui t'a fait prendre du recul par rapport au contenu de Confidence?
D'après toi, pourquoi m'interroger aujourd'hui à propos de Michel Aragon si j'ai pas pris du recul à un moment ou à un autre?
Et oui, mais à quel moment tu l'as pris ce recul? À l'adolescence, quand tu étais déjà au collège?
Non, très tôt en fait. Je sais qu'à 8 ans, je savais déjà que je ferais pas le service militaire, par exemple.
À 8 ans?
Ah oui, c'était clair pour moi. Je savais déjà que je ne bosserais pas sous les l'égide d'un patron et tout ça. Pour moi, c'est insupportable, ça. Alors, je sais pas d'où ça me vient. Enfin, c'est des petites graines qui sautent les générations, je pense. Mais
tu as des grands-parents, déjà?
Ouais, bah ils n'étaient pas spécialement anarchistes, mais ils n'étaient pas non plus... j'ai un grand-père qui a fait la Première Guerre mondiale. Dans l'Oise, enfin il était originaire de l'Oise, il en est revenu et il a dit plus jamais la guerre, et qui son discours c'était il n'y a rien de plus bête qu'un homme avec un fusil. Voilà, il a transmis ça à mon père qui n'a pas fait service militaire, il a transmis ça à mes frères, à moi, toute la lignée Maricourt n'a jamais porté l'uniforme.
Ah, très bien, ouais. Et toi, donc, tu vois,
mais sans se revendiquer d'une idéologie. Je suis le seul à me revendiquer clairement anarchiste, à politiser ma vision du monde, mes émotions.
Et c'est ce qui t'a conduit, alors après, étant jeune appelé, à être insoumis, à déclencher un mouvement avec Léo Ferré à la tête et tout ça, quoi, pour te faire ressortir de
oui,
prison.
Bah oui. Bah oui, non, mais de quel droit? Enfin, j'avais une petite vingtaine d'années, j'étais un gamin qui, avec les yeux grands ouverts, je voulais faire plein de choses, je voulais notamment être utile. Ouais. Voilà, je voulais pas avoir un fusil pour détruire le monde, je voulais rien abîmer, je voulais pas être méchant avec les autres, je voulais être utile. Voilà. Et des connards en uniforme te disent, porte un uniforme et si tu veux pas, et après tu avais un fusil, si tu veux pas, on te met en prison. C'est affreux, ça. Je leur ai dit, si c'est comme ça que ça se joue, oui, mettez-moi en prison. Voilà. Mais sauf que je vais pas me taire parce que je considère que c'est pas normal. Et alors, j'avais fait un comité de soutien où il y avait Léo Ferré qui me soutenait, où il y avait Michel Aragon aussi. Il y a plein de gens comme ça.
Et donc, pour toi, Thierry, être utile, ça a été prendre la plume et écrire et témoigner?
Oui. J'ai toujours défendu l'idée le crayon plutôt que le fusil. Voilà, en ce qui me concerne, après ça peut être autre chose pour d'autres, mais ça peut être la bêche ou le saxophone ou tout ce qu'on veut, mais pour moi c'est des crayons plutôt que le fusil. Voilà. Témoigner, oui, c'est. Enfin, le monde est plein d'injustices. Moi, je pense qu'on vit dans un monde qui pourrait être très très beau. Il y a tout pour qu'il soit magnifique. Il y a tout pour qu'on soit heureux. Et on parle que de guerre partout, que d'injustice, d'inégalité, choses comme ça. Ça va pas. Alors, comment changer ça? Enfin, j'ai jamais eu de remède miracle. Je crois pas du tout à la prise de pouvoir. Voilà, je pense que c'est encore pire. Mais en témoignant, en expliquant aussi comment une situation se met en place, et puis en la décortiquant, on peut mettre des petites idées, inciter des gens à avoir une prise de conscience et à tenter de changer les choses.
J'étais un grand bateau descendant la Garonne, farci de contrebande et bourré d'Espagnols. Les gens qui regardaient saluaient la Madone que j'avais attachée en poupe par le col. Oh, un jour, je m'en irai très loin en Amérique, donner des tonnes d'or aux nègres du coton. Je serai le bateau pensant et prophétique, et Bordeaux croulera sous mes vastes pontons. Oh, qu'il est loin le chemin d'Amérique. Oh, qu'il est long le chemin de l'amour. Le bonheur, ça vient toujours après la peine. Oh, t'en fais pas, mon ami, je reviendrai. Et puisque les voyages forment la jeunesse, alors t'en fais pas, mon ami, je vieillirai. Rassasié d'anciens employants sous les tropiques, un jour m'en reviendrai les voiles en avant. Porteur de plaies nouveaux avec mes coups de trick, tout seul, mieux qu'un marin, je violerai le vent. Harnacher l'Espagnol, remontant la Garonne, j'entrerai chez nous éclatant de lueur. Les gens s'écarteront saluant la Madone, en poupe par le col et d'une autre couleur. Mon qu'il est doux, le chemin de l'Espagne. Qu'il est doux, le chemin du retour. Le bonheur, ça vient toujours après la peine. T'en fais pas, mon ami, je reviendrai. Et puisque les voyages forment la jeunesse, je te dirai, mon ami, à ton tour, à ton tour.
La rage de lire, le jeune Michel Ragon.
Par Thierry Maricourt.
Sur Dissonance.
Et c'est vrai qu'à la fin de ton livre, moi j'avais envie de deux choses. C'est d'en savoir plus sur la littérature prolétarienne et puis aussi d'avoir la suite. Mais vu ce que tu disais, qu'il y avait déjà quelqu'un qui travaillait sur une bio de Ragon, tu nous feras pas la suite alors?
Alors je vais te répondre en deux fois. Là, d'une part, je ne ferai pas la suite parce que non, je vais vraiment voulu m'intéresser au jeune Ragon, à cette alchimie qui s'est produite en lui. Hein? Et puis, mais par contre, ce genre de travail, je le ferais bien sur d'autres personnes. Tu vois, comment expliquer qu'on devient, telle ou telle personne, quoi. Qu'est-ce qui se passe aussi? Et puis, bon, première partie, et puis deuxième partie, alors, si tu t'intéresses à la littérature prolétarienne, aujourd'hui, il existe une excellente revue qui s'appelle Fragments, qui est consacrée, dont le premier numéro est sorti juste après la mort de Michel Ragon.
En 2020.
C'est une coïncidence au printemps 2020. Mmh. C'est une coïncidence parce qu'on avait déjà l'idée de faire cette revue, mais disons, la mort de Ragon, on a dit il faut que ça sorte tout de suite parce qu'on va lui rendre hommage. Et aujourd'hui, la revue, on est à son numéro 7, c'est ce qu'on appelle un MOOC, hein, une revue avec un dos carré qui fait une centaine de pages, 100 ou 120 pages, et qui est consacrée à la littérature prolétarienne au sens large. Qui parle aussi d'art prolétarien éventuellement, mais voilà. Donc en présentant des auteurs d'autrefois, enfin qui sont morts ou qui sont bien âgés, d'accord. Et puis aussi des auteurs d'aujourd'hui, parce qu'ils continuent à publier beaucoup de livres qui s'inscrivent dans ce courant.
Tu as évoqué le mot art, tu as même prononcé. On a oublié de parler de ses rencontres avec des artistes comme Gaston Chessac.
Oui, notamment, oui. Oui, mais Ragon, c'est quelqu'un qui, avec une curiosité insatiable. C'est ça aussi qui m'a intéressé chez lui. Il voulait tout savoir, et puis, mais pas pour dire je sais tout, et puis j'en fais rien, ou je m'enrichis. Pas du tout, il voulait tout savoir parce que tout est à rouage. Hein, c'est un petit peu comme les scientifiques de leur domaine. Enfin, on s'aperçoit que tous les domaines scientifiques c'est comme des îles qui deviennent des presqu'îles au fur et à mesure qu'on avance dans l'acquisition du savoir. Et c'est pareil pour tout ce qui relève de l'art. Tout est lié. Donc, si on s'intéresse à la littérature et qu'après on va creuser sur un courant particulier qui est la littérature prolétarienne, on peut revenir très facilement à ce qui s'appelle l'art brut, l'art abstrait, et puis après à l'architecture aussi, c'est lié, et puis à l'architecture avec un angle social. Oui. Enfin, et donc, Ragon, il a une œuvre très diverse, mais pas disparate. Il y a une grande cohérence dans ce qu'il a fait, et je pense que si Le temps nous poursuit et on est un peu limité par le temps, par les années qui passent. Mais je pense que s'il avait encore eu des années de vie, il serait intéressé à la musique aussi, parce que c'est un domaine qu'il appréciait beaucoup. Il y a encore plein d'autres choses qui... La photographie, c'est pareil, il aurait pu écrire aussi dessus. Enfin, et à chaque fois qu'il s'intéressait à un sujet, il voulait connaître à fond. Ouais, il voulait connaître ça de façon exhaustive, quoi. Et c'est ce qui en fait l'intérêt, quoi. C'était pas du superficiel.
Eh bien, j'espère que tes propos nous auront donné envie aux auditeurs de lire ton livre, donc Une rage de lire, le jeune Michel Ragon de Thierry Maricourt aux éditions L'Échappée. Tu le popularises ce livre, il est dans les médias, tu fais des conférences, tu fais des tournées.
Bah écoute, effectivement il est sorti il y a pas très longtemps, mais j'ai plutôt des bons retours jusqu'à présent. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui le lisent sans connaître Michel Ragon. Ils connaissent le nom, mais pas plus. Et puis, ce qui les intéresse aussi, c'est la démarche, en fait, de suivre un gamin, l'acquisition du savoir chez un gamin, quoi. Qu'est-ce que de savoir, qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Et puis après, j'espère que ça leur donne envie d'aller plus loin et de le lire Ragon, forcément.
Ouais, j'ai beaucoup aimé, Thierry, tes derniers mots, tes dernières lignes du livre. Tu mets que, en parlant de Michel, mais on pourrait mettre vos deux prénoms, hein. Thierry et Michel, vous parlez des individus qui vous ont entouré, que vous avez aimés, ceux morts prématurément de tuberculose, d'alcoolisme, de vieillesse précoce, de manque de nourriture saine. Vous parlez de pauvreté, les oubliés de l'histoire, les méprisés, les divaincus, ils apparaîtront enfin et ils se vengeront de la morgue des puissants. L'art, pourquoi faire ? Pour ne pas mourir de notre vivant, de votre vivant. Vous serez la mémoire des vaincus.
Non, mais Michel, c'est sa voix, c'est lui, et puis c'est la voix de toutes ces personnes, tous ces gens qui existent et qui façonnent le monde et qui essaient de rendre beau aussi à leur façon.
Un immense merci, Thierry.
Et ben, grand merci aussi, Joseph, pour cette interview, ces questions.
Ciao.
Salut.
Et fraternité.
Je repasse tous les ans, quasiment, dans les mêmes parages, et tous les ans je trouve du changement. De dessus mon passage, à tous les coups c'est pas le même chien qui gueule à mes chausses. Et puis voyons si je me souviens, voyons dans ce coin de Beauce. Il y avait dans le temps un bio grand chemin, cheminot, cheminot, chemine. Aster n'est pas plus grand que ma main, par où donc que cheminerait main. En Beauce, vous les connaissez pas, pour que rien ne se perde, mangerin, on ne sait quoi ces gars-là, ils mangerin de la merde. Le chemin c'était à leur jugé la bonne terre perdue, à chaque labour ils l'ont mangé d'un sillon de charrue. Il y avait dans le temps un bio grand chemin, cheminot, cheminot, chemine. Aster n'est pas plus grand que ma main, par où donc que cheminerai demain. On groussit leurs arpents goulus d'un peu de glaive toute neuve, et le pauvre chemin en est devenu mince comme une couleuvre. Et moi qu'avec lit sous les cieux pour poser guibole, le chemin à tout le monde, nom de Dieu, c'est mon bien qu'on me vole. Il y avait dans le temps un bio grand chemin, cheminot, cheminot, chemine, à sœur n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerai demain? On se met du blé sur le terrain, qui retire à ma route, et si je le en demande un bout de pain, il m'envoie faire foutre, et c'est peut-être ben pour ça que je vouais. À mesure que ce blé monte, les épis baissent le nez devant moi, comme s'ils avaient honte. Il y avait dans le temps un bio de grand chemin, cheminot, cheminot, chemine, à sœur n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerai demain? Oh mon bio petit chemin gris et blanc, sur le dos qui que je passe, je veux plus qu'on serre ainsi les flancs, car moi je veux de l'espace où ce qu'est mes allumettes à son. Au fond de ma panetière, ah je ferai ben reculer vos moissons. Allez, mange terre. Ma sœur n'est pas plus grande que ma main.